France Inter.
Et c'est le journal d'Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Pas de train dans le Cotentin, surveillance renforcée du littoral. Les côtes de la Manche subissent les effets de la tempête Pierrick qui a abordé le pays par le Finistère. Hier soir, on va faire un premier état des lieux. L'interminable négociation sur l'emploi des seniors. Syndicats et patronats vont la prolonger aujourd'hui. Faute d'accord trouvé cette nuit, vous entendrez la CFDT. Dans ce journal aussi, témoignages de Gaza où des habitants de Khan Younes rentrent chez eux et découvre une ville presque entièrement détruite. La diplomatie britannique critiquée pour son nid d'adaptation totale à un monde qui change. Et pendant les JO, la Tour Eiffel portera les anneaux.
France Inter.
Une tempête tardive pour la saison.
La dépression Pierrick se déplace ce matin vers le nord-ouest de la France. Vous l'entendiez à l'instant avec Élodie Calac. 7 départements en vigilance orange. Vague submersion du Finistère au Pas-de-Calais. Par précaution, aucun train ne circule ce matin dans la Manche. Hier soir, les rafales ont d'abord touché la pointe bretonne. Et ce matin, William Delesseux, les premières nouvelles sont plutôt rassurantes.
Avec finalement 95 km/h de vent relevé à Brest, 102 km/h près de la côte du Finistère, alors qu'on attendait des rafales à 130 km/h. La tempête est passée un peu plus au nord que prévu, note Météo France. D'après la préfecture, il n'y a pas eu davantage d'interventions des services de secours dans les environs. Le premier bilan matériel est limité, avec quelques routes inondées. Les gendarmes ont été mobilisés, notamment quand il faut éloigner du littoral les curieux, les promeneurs nombreux en cette période de vacances scolaires. Les autorités rappellent que le risque de submersion est toujours très important. Cette tempête Pierrick souffle maintenant plus au nord et à l'est, sur le Cotentin, sur la Manche, comme sur la pointe bretonne. Au vent se combinent les grandes marées. Là aussi, les autorités appellent à la prudence et à ne surtout pas se rendre sur le rivage.
Et je vous rappelle aussi que 5 autres départements sont en vigilance au cru. Seine-Maritime, Eure, Charente-Maritime, Gironde et Pyrénées-Atlantiques. Au thermomètre, le mois de mars a été le plus chaud jamais enregistré sur Terre, avec une température moyenne supérieure à 14 degrés, selon les données publiées ce matin par l'Institut européen Copernicus, ce qui en fait le 10e mois consécutif où l'on bat un record de chaleur. La température des océans n'a jamais été aussi haute. Les militants du climat ont les yeux tournés ce matin vers la Cour européenne des droits de l'homme, qui pourrait rendre une décision historique sur la responsabilité des États face au changement climatique. La CEDH doit se prononcer sur 3 dossiers qui ont un point commun. Leurs plaignants estiment que les gouvernements violent certains de leurs droits fondamentaux en n'en faisant pas assez contre le réchauffement.
Au bout d'une journée, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord hier.
Les syndicats et patronats reprennent donc ce matin à 10h leurs négociations sur l'emploi des seniors. Et on est encore loin d'un compromis. Les propositions patronales contiennent toujours des lignes rouges pour les syndicats, comme ce CDI senior qui prévoit la rupture possible du contrat dès que le salarié atteint l'âge pour pouvoir partir à la retraite à taux plein. La CFDT déplore le manque d'ouverture du MEDEF. Yvan Ricord, son négociateur.
Ils sont venus en égo à reculons. Donc quand on négocie à reculons, si on veut aller au bout de la négociation, en marche arrière, c'est un peu compliqué d'aller jusqu'à l'objectif, quoi. Donc il y a un moment, il fallait qu'ils pivotent. Le petit bout de pivotement qu'on a vécu a eu lieu à 22h30 quand ils nous ont dit on ouvre la porte à ce qu'il y ait une négociation obligatoire sur la question de l'emploi des seniors dans toutes les entreprises à partir de 300 salariés. Donc pour la première fois, on a sur un point une ouverture qui dit il faut qu'on discute sérieusement de cette affaire-là. Au bout de 14 heures de négociation, c'est le seul gain qu'on ait eu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sinon, sur reconversion, on n'a rien. Sur l'usure professionnelle, on a fait une demi-douzaine de propositions, on n'en a aucune. Après, pour la première fois, le MEDEF dit on crante quelque chose qui est un petit signal pour dire que on a envie d'aller au bout. Elle est grand temps.
Yvan Ricordo de la CFDT, il répondait à Maxime Debs. L'encadrement du droit de grève dans les transports au menu du Sénat. La Chambre haute doit examiner aujourd'hui une proposition de loi LR qui prévoit donc la possibilité d'interdire la grève durant 30 jours chaque année aux heures de pointe, notamment pendant les départs en vacances. Le texte augmente aussi le niveau minimal du service pendant un conflit social. Il allonge le délai pour se déclarer gréviste de 48 à 72 heures. Le gouvernement va s'opposer à ce texte. Il y a problème de constitutionnalité, selon le ministre des Transports. Dans les Alpes de Haute-Provence, un nouveau fragment d'os appartenant à Émile a été découvert par les gendarmes qui ratissent le site depuis qu'on a retrouvé il y a 10 jours maintenant le crâne de l'enfant ainsi que ses vêtements. Mais pour le procureur, cette nouvelle découverte dans la même zone d'ailleurs ne permet toujours pas d'avancer sur les causes de la mort de cet enfant de 2 ans et demi.
Emmanuel Macron, le roi Abdallah de Jordanie et le président égyptien Sisi unissent leurs voix
pour réclamer un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. Les trois dirigeants le disent ce matin dans une tribune commune. Ils demandent aussi la libération de tous les otages israéliens aux mains du Hamas et mettent en garde Israël contre une offensive à Rafah qui, je cite, ne fera qu'accroître pertes humaines et souffrances. Pas de quoi pour l'instant faire plier le premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou assure qu'une date est désormais fixée pour une opération à Rafah. C'est peut-être pour cela d'ailleurs que l'armée israélienne s'est retirée ce week-end d'une autre localité gazaoui, Ran Younes. Certains habitants en profitent pour tenter de rentrer chez eux, mais ils découvrent sur place un tas de ruines. Témoignage recueilli par notre correspondante Alice Froussard.
Les rues ont été rasées au bulldozer, tout est méconnaissable. Partout, des nuages de poussière et une odeur de mort, car certains corps sont encore sous les décombres. Voilà ce que décrit Yasmine, une habitante de Ran Younes.
Que dire de plus? Il n'y a pas une maison sans martyr, sans blessé ou sans destruction. Aucun mot ne peut décrire ce que l'on ressent.
Comme elle, de nombreux Gazaouis espéraient retrouver leur maison, même détruite. C'est mieux que vivre dans une tente à Rafah, dit-elle. Mais pour beaucoup, il ne reste qu'un gigantesque tas de gravats. Yasser et sa famille n'ont plus rien.
Un missile l'a visé juste avant qu'on ne parte. On était 16 à y vivre, mais la maison était encore debout. Là, elle est complètement détruite.
D'autres ont surtout de mauvaises surprises, comme Mohamed.
Quand on est parti de chez nous, la maison était intacte. Là, on est revenu et l'armée israélienne a laissé des explosifs à l'intérieur. On ne sait pas ce qu'on doit faire, et si c'est dangereux ou pas, ni comment on doit les manipuler.
C'est le sentiment partagé chez tous ces habitants de Ran Younes. Nous ne nous attendions pas à un tel niveau de destruction, précise-t-il, avant d'ajouter, nous venions seulement chercher quelques habits, un toit et un peu de réconfort en retrouvant nos affaires.
Alice Froussard au Proche-Orient pour Inter. Les diplomates de Sa Majesté sont-ils complètement démodés? La critique était mise en interne au Foreign Office, le ministère britannique des Affaires étrangères. Plusieurs hauts fonctionnaires fustigent dans un rapport de vieilles habitudes obsolètes au sein du réseau diplomatique du Royaume-Uni, en décalage total avec l'époque. France Inter à Londres, Richard Place.
Le Royaume-Uni devrait avoir davantage l'esprit d'équipe et faire preuve d'humilité et de respect. Ce sont des Britanniques qui l'écrivent, des experts des affaires internationales, anciens conseillers ministériels, directeurs de cabinet ou ambassadeurs. La claque est violente. On parle d'un sentiment de grandeur jugé anachronique, d'une Grande-Bretagne qui est désormais qualifiée de puissance moyenne en dehors de l'Europe. Il y a beaucoup à apprendre, écrivent-ils encore, de la Norvège, du Canada, du Japon, des pays selon eux comparables au Royaume-Uni actuel. C'est là que se situent les futurs partenariats fructueux. Le texte critique jusqu'au décor du ministère des Affaires étrangères et propose de moderniser les locaux, je cite, peut-être avec moins d'images de l'époque coloniale sur les murs. Pas uniquement un symbole, une manière aussi de montrer que le Foreign Office regarde devant pour ne pas être élitiste et enraciné dans le passé. Londres, Richard Place, France Inter.
Plusieurs dizaines de milliers de Parisiens sont concernés.
C'est le 10 mai qu'ouvrira la plateforme d'inscription pour pouvoir accéder aux zones protégées mises en place pendant les JO, notamment une semaine avant la cérémonie d'ouverture du 26 juillet autour de la Seine. Habitants, livreurs, invités, il faudra pour entrer dans ces quartiers montrer un QR code et une pièce d'identité. Détail révélé par le ministre de l'Intérieur ce matin dans Le Parisien. Gérald Darmanin assure que cette cérémonie sur la Seine reste une bonne idée malgré la menace sécuritaire. La meilleure preuve, selon lui, c'est qu'aucune délégation étrangère n'a refusé de défiler. La Tour Eiffel se mettra, elle aussi, à l'heure olympique cet été, puisque c'est désormais confirmé, Julien Penaud, des anneaux géants y seront installés.
Les 5 anneaux, bleu, noir, rouge, jaune et vert, symbole des 5 continents, trôneront à une 60 mètres de haut. Ils seront situés entre le 1er et le 2e étage de la Tour Eiffel, 29 mètres de large sur 15 mètres de haut, 100% en acier et made in France, fabriqué par le groupe sidérurgique ArcelorMittal. Leur installation s'annonce spectaculaire, elle est prévue pour fin avril. La Tour Eiffel ne sera pas que le porte-drapeau des Jeux Olympiques de Paris, elle en sera aussi l'un des lieux de compétition. Les épreuves de beach volley se tiendront à ses pieds dans l'aréna du Champ de Mars et les coureurs du marathon seront amenés, eux, à passer dans son ombre entre le 38e et le 39e kilomètre.
Quant à la vasque olympique qui accueillera la flamme, on sait désormais qu'elle sera installée au cœur du jardin des Tuileries, entre le Louvre et la place de la Concorde.
Merci Alexis Morel. À 6h10 sur France Inter, on passe à l'Esprit Sport. Bonjour Cédric Guillou.
Bonjour Laetitia.
Le championnat de France de vol et ski, et vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, vient de se terminer à Val d'Isère en Savoie, et vous allez nous parler d'une championne de France, pas comme les autres. Hein.
Oui, qui s'appelle Cathy Devaux, qui a eu 60 ans en décembre, et autant le dire tout de suite Laetitia, son âge, elle s'en moque, elle continue de battre les plus jeunes et à être performante dans cette discipline, donc le vol et ski. Vous connaissiez le vol et ski, Laetitia ?
Pas du tout.
Pas du tout, ben, on va vous expliquer ce que c'est. C'est un sport qui est affilié au parapente. Cathy Devaux.
Il faut surtout, dans un premier temps, pas trop mauvais en parapente. Moi, par exemple, je suis pas une grosse skieuse. J'ai appris tard à skier. Et donc, c'est une discipline où on part en haut des pistes. On a un parcours à respecter, où il faut atterrir dans des cibles, soit des piquets à toucher. C'est de la précision et sans notion de temps. Les manches ne sont pas chronométrées.
Alors, Cathy Devaux a pas mal pratiqué l'athlétisme quand elle était plus jeune, le handball également. Elle a joué à Antibes, à l'AS Monaco, elle a fait du foot. Elle aurait adoré être joueuse de foot professionnelle, mais à son époque, c'était compliqué de jouer les week-ends dans une équipe 100% féminine. Et puis, elle a découvert le parapente.
Et ça, c'était quand ?
Alors, c'était en 1988. Elle avait 27 ans et ça a été un véritable coup de foudre.
Je me suis rendu compte du contraste entre monter dans un bus, aller dans un stade et le contraste avec le parapente. Je me suis instantanément retrouvée dans un univers beau. Déjà, c'est très esthétique vu qu'on est au-dessus de la nature. Et silencieux, et la coupure a été nette à l'époque.
Alors son objectif à la base, c'était de se faire plaisir, pas forcément de cumuler les titres, mais vous l'avez dit, il se trouve qu'elle en a gagné beaucoup, et dont un dernier ce week-end, ça lui fait 12 titres de championne de France de vol et ski.
Merci Cédric Guillou pour l'Esprit Sport.